La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire.
Bien des magasins sont restés fermés ce matin à Beyrouth et à Saïda. Même chose, les commerçants protestaient contre les incidents violents qui ont opposé des membres du parti des phalanges à des commandos palestiniens. Alors Philippe Rochaud, ce matin d'abord, le climat dans les rues de Beyrouth.
Je vous donnerai, si vous voulez, d'abord le dernier bilan des victimes qui est de 31 morts et 25 blessés. Parmi les tués, donc, les 26 fédayines qui se trouvaient dans le car qui a été pris sous les tirs de la milice des Kataeb. Alors, l'ambiance à Beyrouth, eh bien, tout à l'heure, on entendait encore des roquettes RPG explosées dans le quartier de Ain El Mane et des rafales de mitrailleuses lourdes, moins intenses toutefois que cette nuit où toute la population a été réveillée par les explosions et plusieurs attentats. Dans les quartiers où les affrontements se poursuivent, dans la banlieue sud-est de Beyrouth, miliciens des Kataeb et fédayines ont établi des barrages de contrôle depuis hier soir. Mais le premier ministre libanais a déclaré tout à l'heure que l'armée et les forces de sécurité intérieure occupaient les points où se déroulaient les combats.
13 avril 1975, c'est le début de la guerre civile au Liban. 15 ans de conflit symbolisés par la division de Beyrouth. Il faut choisir son camp, être de l'Est, avec les chrétiens du Front libanais et les forces libanaises, ou bien être de l'Ouest, avec les mouvements arabistes, musulmans et palestiniens. Les Libanais sont alors moins de 3 millions. Leur système politique et confessionnel, fondé depuis l'indépendance sur le pacte national, pour répartir les pouvoirs. Aux chrétiens maronites, la présidence de la République. Aux sunnites, la présidence du Conseil des ministres. Aux chiites, la présidence du Parlement. Mais plus largement, c'est toute la société libanaise qui fonctionne dans la logique du partage confessionnel. Ce pacte, fondateur pour l'histoire du Liban, est remis en cause par la guerre civile en 1975.
Le 13 avril 1975, on était chez nous, on prenait le déjeuner dominical. Je crois que c'était le dernier jour de quiétude jusqu'à la fin de la guerre. Et même aujourd'hui, la situation n'est pas fameuse. Mais avant 1975, c'était tout à fait différent. Donc j'ai dû quitter mes parents pour aller au QG de la région à laquelle j'appartenais. Et on a immédiatement commencé à installer les postes radio et à essayer de relier les régions Kataeb pour faciliter la tâche des responsables militaires, des contacts, etc. Parce que petit à petit, à cause des problèmes d'électricité, il n'y avait plus de moyens de communication. Il n'y avait pas les téléphones mobiles comme maintenant. C'était pas encore la violence, si vous voulez. Parce que chez les gens, se défendre n'est pas violent. Les armes, quand on est à la défensive, c'est pas de la violence. Et les armes, quand ça commence à devenir offensif, c'est la violence. C'est comme ça qu'on pensait, alors. Maintenant, bien sûr, je vois les choses différemment.
Assad Chaftari a 20 ans, 1975. Il a grandi dans une famille chrétienne de Jemaïzé, en plein cœur de Beyrouth. C'est avec ses voisins et ses cousins qu'il crée son groupe, les Gardiens du Cèdre, avant de rejoindre le parti Kataeb. Celui qui deviendra numéro 2 des renseignements des forces libanaises a accepté de confier son expérience au micro de Théa Olivier.
Lorsqu'on est jeune, je crois qu'on oublie la peur. Ce sont les autres qui risquent de mourir, pas vous. Même quand vous voyez vos copains mourir, vous vous sentez avec une immunité peut-être contre la mort. Elle surprend. Je l'ai appris sur le terrain même, si vous voulez, parce que ceux qui étaient touchés étaient surpris d'avoir été touchés. Comme si on s'attend à ne jamais être touché et jamais mourir sur le terrain. Les jeunes des Kataeb vers le devoir, etc. L'air n'est pas à la relaxation, l'air est très sérieuse. Allez, jeunes des Kataeb. Oh, le Liban, c'était tout pour moi. J'avais amalgamé le Liban, les chrétiens du Liban, l'Occident, les options de droite, tout ça était pour moi le Liban. Donc ma cause, si vous voulez, à un certain niveau, a été le Liban chrétien, de droite, occidental. J'ai grandi dans un quartier chrétien de Beyrouth, Est, la région qu'on appelle aujourd'hui Jemaïzé, qui est très connue pour ses nuits. J'ai fait mes études au collège des frères de la Salle, des écoles chrétiennes. Et j'ai continué mes études à l'université Saint-Joseph. J'ai fait l'école supérieure des ingénieurs de Beyrouth. Mes parents étaient vraiment de bons chrétiens, je dirais, des croyants, pas bigots si vous voulez, mais de bons chrétiens. À mon avis, ils n'étaient pas très fanatiques, disons, comparés aux autres, bien sûr.
Vos voisins, vos amis, votre entourage, qui sont-ils ?
Je ne sais presque rien des voisins. On était un peu casaniers, si vous voulez, lorsqu'on était à Beyrouth. On estivait à la montagne, à Alay. C'était un village druze et chrétien. Là-bas, c'était différent. On descendait dans la rue, on allait et venait tout seul, à bicyclette. On allait faire des camps, on vivait dans des tentes. C'était différent. À Beyrouth, vous voyez, c'était l'école, les études, les cousins, et c'est presque tout. On allait de temps en temps au cinéma. Si vous voulez, je me définissais comme un chrétien libanais, de droite.
Yasser Arafat.
D'aucuns croient que c'est un but difficile ou impossible, mais nous, nous y croyons. Il s'agit d'un État démocratique palestinien. Un État où coexisteront les Juifs, les musulmans et les chrétiens.
En fait, les Palestiniens, je crois que c'est venu un peu tard dans ma vie. Bien sûr, j'ai entendu parler de la cause palestinienne, etc. Mais je n'ai pris les Palestiniens au sérieux, si vous voulez, qu'en 67, il y avait eu beaucoup d'incidents, etc. En 67, c'était l'annonce de la création de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Et en 69, il y a eu, après des heurts entre l'armée libanaise et les Palestiniens, etc., les pays arabes nous ont forcés à signer l'accord du Caire, qui donnait aux Palestiniens beaucoup de liberté sur le territoire libanais, qui leur a donné des territoires au sud du Liban qu'on appelait le Arkoub Land, dans lequel ils pouvaient bouger, positionner leur artillerie, etc. Donc je crois que ça a commencé à partir de 67. Le Palestinien n'était rien du tout pour moi au début, c'était des réfugiés. Mais petit à petit, lorsqu'on a commencé à voir les factions armées palestiniennes dans la rue, faire des barrages, etc., j'ai pris conscience de leur nombre, 600 000. Chacun a sa propre date du début de sa guerre civile, à mon avis.
À quand remonte l'engagement de chacun dans la guerre civile ? À 67, date de la guerre des six jours, quand Israël écrase les forces armées arabes. À 69, au moment des accords secrets du Caire qui consacrent le soutien des Libanais à la résistance palestinienne, chacun a sa date, chacun a ses raisons.
Petit à petit, on a senti que les musulmans ont vu en les Palestiniens un sauveur pour corriger le déséquilibre et l'injustice qu'il y avait envers eux au sein du pays. Parce que vous savez que le Liban, après l'indépendance, avait donné, ou les chrétiens avaient pris beaucoup de prérogatives bien supérieures à celles des musulmans. Le président, c'était le chef suprême de l'armée. Il pouvait saquer le premier ministre à cause d'un cauchemar la nuit ou n'importe quoi. C'est à ce niveau où, à mon avis, les musulmans ont voulu profiter de la présence des Palestiniens pour s'allier avec eux, pour les aider dans ce qu'ils essayaient de faire au Liban.
To me, to be a Palestinian meaning to be with no land.
Pour moi, être palestinien signifie ne pas avoir de terre, ni de passeport. Encore aujourd'hui, je n'ai qu'un laissez-passer comme papier d'identité. Au Liban, on me regarde toujours comme un étranger, même les chrétiens, alors que je suis moi-même chrétien. Je n'ai aucun droit, je n'ai pas de terre, je n'ai pas de vie. Pendant la guerre, j'ai perdu plusieurs maisons. Certaines ont été bombardées. D'autres fois, ce sont les milices qui m'ont expulsé. Je leur demandais seulement de me rendre ma guitare et mes livres, mais je sortais sans rien. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis devenu fou, parce que je n'avais rien à perdre.
Pour quelles raisons les jeunes Libanais se sont-ils engagés dans la guerre civile ? Comment sont-ils devenus des combattants ? À quel camp sont-ils identifiés ? Autant de questions posées à Assad Chaftari, Ziad Saab, Jocelyne Kouheri, Ahmad Matar, Elie Nassar et Gabi Jamal, tous témoignent dans la marche du monde.
Je suis né au Liban, mais ma famille vient d'Haïfa, en Palestine. Pendant les années qui ont précédé la guerre, mon père faisait partie des organisations palestiniennes. Et nous avions un rêve, combattre Israël et retourner en Palestine. C'est l'idée que notre père avait installée dans nos esprits. Nous étions donc très proches des partis politiques palestiniens, alors que nous vivions à Ashrafieh, le quartier chrétien et conservateur de Beyrouth. Ma famille ne vivait pas dans les camps avec d'autres réfugiés, car nous avions une bonne situation. Je suis né à Ashrafieh, au sein de la communauté chrétienne qui détestait les Palestiniens. Mais nous disions toujours que nous étions Palestiniens. Mais nos voisins disaient non, vous êtes chrétiens. Et ça nous a marqué, mes frères et moi.
Il disait,
il nous aimait bien, mais il n'acceptait pas que nous soyons palestiniens. Vous êtes chrétien. Mon père est palestinien, mais ma mère est libanaise et chrétienne maronite, de la famille Houli. Ce qui m'a toujours mis en colère contre le Liban, c'est qu'il n'a jamais voulu reconnaître mes droits. Ici, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas être propriétaire d'un appartement ou d'un magasin. Et il y a 75 professions au total que je ne peux pas exercer. Ils ne veulent toujours pas me reconnaître comme un journaliste.
Gabi Jamal est chrétien, mais il se reconnaît d'abord dans son identité palestinienne. Il s'inscrit dans le camp de l'Ouest, dans le camp des musulmans. Dans ce Beyrouth coupé en deux, chacun sait de quel côté il se trouve de la ligne verte, une vraie frontière qui divise la capitale libanaise.
Ici, nous sommes à Naba, en face du quartier chrétien Sinelfil. Pendant la guerre, Naba était une zone contrôlée par les chiites. À cette époque, on parlait plutôt de musulmans. Là où nous nous trouvons, il y a encore le cinéma qui diffusait trois films en boucle. J'avais l'habitude d'y aller, et même si c'était sur la ligne verte, on se sentait en sécurité à l'intérieur. Rien n'a changé ici, à part que la rue pour descendre à Naba et celle qui sépare le quartier musulman de Sinelfil sont maintenant plus larges. Si on regarde sur le côté gauche, on voit des bâtiments neufs et des églises. À droite, on aperçoit la mosquée, la seule de Beyrouth Est. Mais les vieux immeubles sont toujours là. Sur les murs extérieurs, on voit toujours les impacts de balles, même si les maisons ont été rénovées à l'intérieur. Les traces de la guerre persistent et ne laissent pas de la place pour des immeubles neufs.
Ce quartier-là,
Naba, je l'aime beaucoup. Quand mon père nous y emmenait pour retrouver ses amis, nous restions entre enfants et nous nous baladions dans les alentours. C'est un quartier pauvre, mal organisé, sans infrastructures. Mais c'était naturel pour moi car j'aimais beaucoup les gens ici. Ils nous aimaient bien et ils ne nous posaient pas de questions sur notre religion ou nos origines. Et ils étaient Libanais et chiites. Au contraire, à Ashrafieh, on nous regardait méchamment. Mais pour eux, nous étions chrétiens. Ils voulaient oublier que nous étions palestiniens.
Revenir
ici, à Naba, c'est faire revenir plein de souvenirs. Je ne peux pas oublier les souvenirs de mon enfance. Après l'école, nous venions à Naba avant de rentrer à la maison. Géographiquement, nous vivions à Ashrafieh, mais dans mon esprit, ma vie était à Naba. D'ailleurs, ce qui se passe au temps de l'adolescence, le premier amour, le premier baiser, c'était ici, avec Fatmeh, une Libanaise
chiite.
C'était mon premier amour, j'avais bien 12 ans.
Je suis né à Beyrouth, dans le quartier de Naba. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans. Ce quartier, proche du camp palestinien Tal El Zatar, était totalement encerclé pendant la guerre. Nous étions donc au cœur des tirs. J'ai grandi là-bas jusqu'en 1976, date à laquelle je suis parti faire mon entraînement militaire en Union soviétique. Ce quartier était pauvre et la plupart des gens venaient de l'immigration interne. Ils cherchaient un travail. Ce quartier de Naba, on l'appelait le quartier misérable.
Gabi Jamal et Ziad Saab se sont peut-être croisés dans le quartier de Naba lorsqu'ils étaient enfants, à Beyrouth-Ouest. Si tous les deux se reconnaissent dans l'identité palestinienne, Ziad envisage son engagement d'un point de vue éminemment politique dès son adolescence.
Je suis Libanais, mais je n'appartiens à aucune religion. Sur le papier, je suis d'abord druze, une branche de la religion islamique. Mais je ne suis pas croyant. Je viens d'une grande famille composée de 11 personnes, 9 enfants et mes parents. C'est une grande famille qui vient de la campagne. Nos revenus n'étaient pas suffisants pour survivre. Autour de nous, les immeubles étaient grands et neufs. Alors que nous vivions dans ce qu'on peut appeler un camp. C'est ce qui m'a motivé à changer de vie. C'est pour cela que je me suis engagé dans le Parti communiste. La question palestinienne était sur la table au quotidien. J'avais 9 ans lors de la guerre entre Israël et les pays arabes en 1967. Même si j'étais jeune, je me rappelle de lire l'atmosphère tendue sur les visages de mes proches et de ma famille. Quand j'ai eu 14 ans, il y a eu des clashs entre l'armée libanaise et les forces palestiniennes. Je suis allé soutenir les Palestiniens. Je suis allé dans le camp de Tal El Zatar, un camp palestinien qui n'existe plus. Puis j'ai porté une arme, mais je n'ai pas combattu. Je suis Libanais, certes, mais je suis aussi arabe. À cette époque, le mouvement national arabe était en train de combattre pour nos droits. Les pays arabes qui avaient vécu le colonialisme étaient en train de se libérer et ont commencé à prendre leur indépendance, comme en Égypte, à Tunis, en Libye ou en Irak. Le seul endroit où le mouvement était contraire, c'était en Israël, en 1948. Au contraire, ils ont occupé la Palestine. C'est pourquoi la cause palestinienne est devenue ma priorité, avant même la cause libanaise.
Ziad Naba, Saad Shaftari, Jocelyne Kouheri, Ahmad Matar, Elina Sarr et Gabi Jamal racontent leur engagement dans la guerre civile au Liban. C'est à suivre sur RFI.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niveau.
Suite de la marche du monde au Liban à la rencontre de celles et ceux qui se sont engagés du côté des milices dès le début de la guerre civile.
Il faut dire que la plupart des familles libanaises et des Libanais ont leurs tendances et leurs penchants politiques. Il y en a qui sont engagés comme militants, il y en a qui sont des sympathisants comme les miens. Mais mes frères aînés, ont été très vite engagés dans le parti Kataeb et je pense que petit à petit, ils m'ont entraîné.
Jocelyne Kouéri a 20 ans, 1975. Elle est étudiante et elle vit encore dans sa famille chrétienne au centre de Beyrouth. Si elle prend les armes, c'est parce qu'elle s'est préparée à le faire dans les camps d'entraînement Kataeb, le parti des phalanges chrétiennes nationalistes et militarisées.
Moi, je suis née au centre-ville, à Beyrouth, en 55. J'ai grandi là-bas. Ma maison était située en face du siège central du parti Kataeb. Et je pense que ça, là, c'est un facteur qui a joué pour mon engagement aussi. Et la première fois que j'ai pris effectivement les armes, c'était... En avril 75, quand ça a éclaté et nous avons commencé à faire la garde autour de notre immeuble, on a commencé comme ça. Et j'étais pas seule. Il y avait d'autres filles, d'autres garçons, jeunes gens, les parents même. La résistance avait un aspect populaire et familial même, je peux dire. C'était les gens du quartier. Mais il faut dire que quand ils m'ont vu prendre le fusil pour descendre dans la rue avec mes frères, quand ça a bardé, mon père surtout a été très choqué. Il m'a dit « Toi, non !» Je me rappelle très bien de ce qu'il a dit. « Toi aussi, tu t'en vas, non !» Alors je lui ai dit « Mais je me suis entraînée pendant 2 années, c'est maintenant que je dois faire mes preuves. » Ce n'était pas une idée que je pensais défendre, c'était mon pays, la souveraineté du Liban, la liberté du Liban. Et avec le temps, ça a évolué parce que nous avions commencé à faire le lien entre le fait que voilà, nous sommes la majorité chrétienne qui défendons la souveraineté du Liban. Et c'est comme dans l'histoire, lorsque nos parents et nos ancêtres ont fait de même, pour sauvegarder leur foi et leur entité en tant que chrétien libanais dans cette terre.
Et est-ce que pendant la guerre, vous pouvez continuer à pratiquer votre culte ?
Il faut dire que nous n'étions pas au départ tellement engagés, spirituellement parlant. Moi, j'ai commencé précisément en 1980. Et depuis lors, je tenais, oui, à avoir la messe parfois chaque jour quand c'est possible.
Elle est une figure de la résistance. Jocelyne Kouéri est une des rares femmes combattantes de la guerre civile. Elle prend la responsabilité de la section femmes de son quartier et bientôt de Beyrouth. La légende raconte qu'elle remporte une victoire décisive contre 300 combattants palestino-syriens dans la nuit du 6 mai 1976. D'abord réticente, elle a bien voulu se raconter au micro de Théa Olivier.
La nuit du 6 mai, j'étais responsable d'un petit front au centre-ville. Très avancée. Nous avons été attaqués, nous étions 6 filles, avec moi 7. Nous avons été attaqués et encerclés pendant des heures et nous avons pu tenir et les agresseurs ont perdu leur commandant en chef dans cette bataille et c'est pour cela qu'ils se sont retirés. Tout le monde a parlé de nous le jour après, que ce sont les militantes qui ont sauvé le quartier général des chrétiens. Ça a été un tournant pour nous. Parce qu'en tant que femme, c'était comme une preuve d'efficacité, comme un passeport qui dit qu'elles ont fait un travail efficace. Elles ont pu sauver à elles seules le quartier cette nuit-là. Surtout que l'attaque était très forte. Très forte. Accompagnée d'un bombardement massif de tout le quartier.
Les affrontements ultra-violents entre miliciens détruisent le centre de Beyrouth et inscrivent la guerre dans la géographie de la ville. Une guerre civile dont les deux camps rappellent qu'elle est aussi la guerre des autres. Celle des Palestiniens réfugiés au Liban contre Israël. Celle des puissances régionales comme la Syrie ou bien encore celle des Américains contre les Soviétiques puisque c'est le temps de la guerre froide.
We were supported by the Soviet Union.
On était soutenus par l'Union soviétique.
We need a military training.
Nous avions besoin d'un entraînement militaire
pour continuer notre guerre civile. C'est comme ça que le Parti communiste a décidé de choisir les personnes les plus importantes. Donc, ils m'ont envoyé m'entraîner à Moscou. C'était en février 1976.
Ziad Saab a tout juste 18 ans. Il est touché par la pauvreté du quartier de Nabaa, où il a grandi à Beyrouth-Ouest. Il partage la révolte des Palestiniens qui viennent se mêler à la population chiite pour riposter contre les chrétiens.
Vous savez, à cette époque, nous sommes partis en secret. Nous sommes passés par Chypre sans tamponner nos passeports pour entrer en Union soviétique. On est aussi revenu par Chypre ou par un autre pays au Liban. Il n'y avait aucune preuve montrant que nous étions partis du territoire. Moi, j'étais à peine adulte. Je suis revenu en 1976, après 6 mois d'entraînement, et je pensais qu'il ne manquait qu'une chose à la guerre libanaise, moi, parce que je n'y étais pas. Mais maintenant que j'avais fait un entraînement militaire, maintenant que j'étais là, j'étais persuadé de changer toute la situation au Liban.
Mon engagement dans le Fatah, c'était à la suite de la bataille de Karamé qui a eu beaucoup d'écho dans la presse palestinienne, libanaise et arabe. Je suis né en 1955 et j'ai commencé à combattre en 1968 à 13 ans après la bataille de Karamé en Jordanie contre l'ennemi israélien. C'était plus affectif que politique. Pour moi, c'était grandiose.
Tout comme le Parti communiste libanais, le Fatah, premier mouvement de libération de la Palestine fondé par Yasser Arafat, reçoit le soutien de l'URSS.
Au début, pendant les entraînements, nous avions l'obsession de savoir comment vaincre la peur intérieure. Par exemple, la nuit, des groupes organisaient des explosions et des tirs dont on ne connaissait pas l'origine pour nous perturber. Tout cela, c'était dans le cadre de l'entraînement pour habituer le combattant à dépasser sa peur. Au début, la première session, c'était à Hamouria, en Syrie. Ensuite, il y en a eu d'autres au Liban et à l'étranger, en Bulgarie et en Union soviétique. C'était pour moi naturel. Je suis une personne engagée dans un courant politique bien précis. Dans ces sessions, une part de la formation portait sur le savoir militaire et l'autre sur la politique. Par exemple, nous avons participé à une formation militaire en Bulgarie et une formation politique en Union soviétique. En Europe de l'Est, bien sûr, nous n'étions pas seuls. Il y avait des personnes du monde entier, des Turcs, des Chypriotes, des Africains, des gens du Nicaragua, du Vietnam, mais essentiellement des Arabes et de plus en plus d'Africains. L'Éthiopie, l'Angola, le Libéria, l'Ouganda. Je ne me souviens pas de tous les pays représentés, mais c'était différents pays africains qui gravitaient dans la sphère de l'ancienne Union soviétique. Il y avait des soirées, des rencontres où chacun interprétait son folklore. Un de nos camarades jouait de la cornemuse et à ce moment-là, tout le monde se retrouvait dans la cour pour l'écouter. Parfois, on dansait la dabke palestinienne, libanaise, syrienne, etc. En Union soviétique, c'était une sorte d'école politique. Nous avions des matières scientifiques, philosophie, histoire, économie, l'histoire du Parti communiste soviétique. Il y avait aussi l'histoire des relations internationales, l'histoire du mouvement des travailleurs. Nous étions dans le cadre d'une université, l'université de l'amitié Patrice Lumumba.
Tandis que Ahmad Matar est envoyé par le Fatah à l'école révolutionnaire soviétique, Gabi Jamal est lui aussi enrôlé par le Fatah dans le camp d'entraînement palestinien de Tal el-Zaatar, armé par la Syrie. C'est sa nouvelle famille.
Au début, quand j'avais 12 ans, il y avait des personnes entre 11 et 16 ans. On était une quarantaine à s'entraîner. Nous, on se concentrait sur les sionistes israéliens qui n'ont pas le droit de voler nos terres. Et pour les reprendre, il fallait se battre. Ensuite, on est arrivé au point où il ne fallait pas seulement se battre, mais aussi militariser la société. On a donc donné des kalachnikovs aux étudiants pour qu'ils aillent combattre. En fait, c'était un entraînement théorique et armé. Par exemple, on nous parlait de la Palestine et de l'ennemi israélien. On nous disait « Votre ennemi, c'est Israël ». Et on nous expliquait bien la différence entre sionistes et juifs. Je me souviens qu'on avait tous un moral de fer. Pendant que l'on faisait une marche, l'entraîneur avait l'habitude de tirer des balles réelles entre nos jambes. Et on ne devait pas regarder, on devait ne pas avoir peur et continuer à marcher. Mais à cette époque, la guerre, c'était comme un jeu. On était fiers. L'entraînement commençait à 4 heures, alors j'arrivais après l'école à 2 heures. On attendait. Et on adorait notre entraîneur. C'était comme notre père, voire même plus qu'un père. Et les enfants, ils étaient prêts à combattre. Ils avaient envie de finir l'entraînement. On voulait même avoir des armes à ramener à la maison, alors que la guerre n'avait pas commencé. Et même dans les grandes occasions, comme pour le jour de la catastrophe, la Nakba, c'était jour de fête. On nous emmenait dans un grand champ et on voyait les enfants de 6, 7, 8 ou 9 ans avec des costumes militaires, sans armes mais avec des drapeaux palestiniens. Et des femmes aussi avec des kalachnikovs. Et puis nous, on était avec les hommes. On faisait une parade et il y avait une voiture avec des énormes microphones et des chansons. Il y en avait une qui parlait de Fidaï, qui signifie celui qui sacrifie sa vie pour sa cause. C'est exactement le genre de musique pour te pousser à heurter le mur et à te donner du courage pour juste foncer, tuer et mourir. Surtout mourir. Parce qu'à cette époque, et encore aujourd'hui, tout le monde considère celui qui meurt comme un martyr. On a fait du martyr quelque chose de « wow ». Plus tard, j'ai commencé à détester cela. Enfin, après 1990. Mais c'est fini pour moi. Je n'ai pas vécu ni mon enfance ni mon adolescence. À cette époque, je ne connaissais les femmes que dans un contexte de guerre, et pas comme une collègue à l'université ou à l'école. Toutes les femmes que je rencontrais étaient dans la guerre.
Anyway,
La Marche du Monde est à Beyrouth, où Théa Olivier enregistre les voix des combattants de la guerre civile, des enfants et des adolescents de l'Est et de l'Ouest de Beyrouth, capitale libanaise coupée en deux. Au milieu, une maison, la maison Baraka, bientôt un musée où nous entrons avec l'architecte Youssef Haïdar.
Là, on est sur le carrefour de ce qui a été nommé Carrefour Sodeco. On est au croisement de deux rues principales qui sont la rue de Damas, qui est l'ancienne route qui menait jusqu'à Damas, en fait, et l'avenue de l'Indépendance. Là, c'est une des belles maisons libanaises. Les dernières personnes qui ont habité là, ce sont les francs-tireurs. Ils sont restés depuis les années 70 jusqu'au début des années 90. On a les francs-tireurs, et c'est resté une base militaire pendant toute cette période-là. En face de nous, il y avait l'ancien lycée français, le premier lycée franco-libanais en face. Donc on est vraiment sur un croisement de la ville, on est le long de la ligne verte, ce qui a été appelé malheureusement après la ligne verte, qui était la ligne de démarcation, la ligne de séparation des deux parties de la ville. La ville de Beyrouth a été coupée en deux pendant plus de 17 ans, et il est vraiment ce bâtiment-là, et à l'angle de ce carrefour-là, est vraiment en contrôle sur cette ligne verte. Faut savoir que ce n'était pas le seul bâtiment. Hein. De ce genre de bâtiment, il y en avait des centaines tout le long de la ligne verte, et des deux côtés, et des deux bords, tout le monde a agi de la même manière. Donc là, on est du côté de la salle à manger, de cet espace. Vous savez, il y a une série de percements que vous voyez comme ça, qui sont des percements créés dans les murs, une succession, il y en a deux qui se suivent, et qui permettaient vraiment d'avoir tout un chemin de retraite. Donc c'était vraiment la sortie des francs-tireurs. En cas de bombardement intense, où ils devaient vraiment quitter le bâtiment ou sortir, ils avaient leur chemin de retraite à l'arrière. Comme on l'avait vu, ils avaient démoli les escaliers pour empêcher tout accès qui pouvait se faire de l'autre côté. Et là, ils connaissaient ça au nombre de foulées. C'est vraiment comme un militaire qui peut démonter et remonter une arme les yeux bandés. Là, il connaissait le nombre de foulées nécessaires pour pouvoir sortir dans un noir absolu et pouvoir quitter le bâtiment. Et vous voyez, la quantité d'impact, c'est vraiment on dirait un ciel étoilé, quoi, le nombre d'impact qui vraiment couvre ces murs. Et en même temps, on est dans une ligne de tir telle que vous vous placez là, si vous regardez la porte avec la meurtrière de l'autre côté, et vraiment la ligne de tir qui traverse tout l'espace, vraiment très au loin, à travers une lunette de tir très très étroite pour l'ensemble. Et là, on est à l'intérieur du bunker du premier étage. On a aussi, pareil, trois lunettes de tir. Et à travers ces trois lunettes de tir, une lunette de tir très très étroite qui traverse vraiment l'ensemble du bâtiment pour pouvoir vraiment couvrir et saturer complètement tout un carrefour. Ils pouvaient contrôler complètement toute une zone énorme.
Et qui étaient ces francs-tireurs? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur eux ici?
Alors ces francs-tireurs étaient des monstres pour la plupart, j'ose le dire dans ces termes-là, et des êtres humains, hein. Enfin c'est dans les deux sens, des êtres humains avec toute leur monstruosité telle qu'elle pouvait se faire. Alors c'est des gens qui ont laissé des traces, qui ont écrit plein de graffitis sur les murs, qui racontaient une part de leur histoire, qui croyaient peut-être en une cause, mais en tous les cas cette cause n'était que meurtrière. Hein. Et un franc-tireur était avant tout quelqu'un qui tuait des personnes civiles, ces personnes civiles qui pouvaient être dans la rue, ces personnes civiles qui pouvaient être dans leur maison, en train de mener leur vie et essayer d'avancer. C'était pas du tout une confrontation d'armée à armée, hein. C'était des gens barricadés. Alors imaginez un peu tout ce qui peut se passer dans la tête de gens comme ça, qui étaient souvent aussi des mercenaires, qui étaient payés à la tête de la victime et tout ça. Donc on a en haut, au premier étage, c'est un étage qui n'était pas très pratiqué par eux, mais dans lequel on a encore quelques graffitis sur les murs, où un peu ils racontent leur histoire. Vous en avez deux dominants. Il y a un premier qui dit, il est signé par M. Begin étant le premier ministre israélien, mais aussi un des francs-tireurs habitant ce lieu, et qui dit, je veux dire la vérité, mon âme est devenue dégueulasse, ou mon âme est partie en un instant. Donc il est vraiment, il ne se supporte plus. Il est vraiment dans cette situation-là de l'absurde et de l'engrenage interminable par rapport à l'ensemble.
Vous pouvez me le dire en arabe ?
Baddi ahki al-haqiqa, nafsi tarit bid'iqa, ou nafsi sarit bazi'a. Heureusement, ce bâtiment-là a réchappé à tout ça. Et puis, les futurs habitants de ce bâtiment, j'espère, c'est un bâtiment citoyen par excellence, qui va être vraiment ouvert à tout public. On espère que les gens vont vraiment venir, c'est un espace public par excellence, un espace culturel et public par excellence. On veut que les gens viennent vraiment faire ce devoir de mémoire, viennent vraiment pouvoir s'interroger, se poser des questions, essayer de trouver des débuts de réponse et pouvoir vraiment rentrer dans ce processus au-delà du processus qu'on a vécu, qui est amnistie générale, amnésie générale, et ça recommence. Tous les 10 ans, ça recommence.
La violence, elle, n'a jamais cessé. Elle est bien présente dans les esprits de celles et de ceux qui acceptent de se souvenir.
Quand je pars pour faire du sport, pour marcher dans le downtown, dans chaque coin, il y a une mémoire pour moi. Je me rappelle, ici on a fait comme ça, ici on a fait comme ça, ici mon ami est mort. Ici, il y avait des mines. Ici, on a fait une bataille spéciale. Des mémoires.
Elie Nassar était responsable de la frontière entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, depuis le port jusqu'au carrefour Sodeco. Il est profondément engagé dans le parti Kataeb dès 1975. Et d'ailleurs, il est toujours engagé en tant que chrétien nationaliste.
Au début de la guerre, les soldats qui étaient avec moi, les combattants, c'était tous de notre quartier. Il y a une relation familiale avec eux, on se connaît très bien. Et chacun d'eux a une relation avec moi, dans mon cœur.
Et quelle est la mémoire la plus vive que vous avez?
Quand mon bodyguard est mort, Alexandre. C'était tout à fait en face de l'immeuble de la municipalité de Beyrouth. Il est mort quand il était en train de me protéger. C'est quelque chose que je me rappelle toujours. Il était avec moi depuis 15 ans. Alors, Alexandre, c'était comme mon frère. Parce qu'il était toute la journée, toute la soirée avec moi. Il dort chez moi, il sort avec moi, toujours.
Et vous êtes prêt à continuer votre engagement jusqu'au bout?
Si quelqu'un pense occuper le Liban de nouveau, je suis prêt à le combattre et même à mourir. Aucune armée, même le Vatican, s'il envoie l'armée du Vatican au Liban, je suis contre. Le Liban doit être occupé par les Libanais. Seulement les Libanais.
Si Elie Nassar ne regrette pas d'avoir sacrifié sa jeunesse, Ziad Saab est pour sa part repenti.
Effectivement, j'ai commencé à combattre tôt. J'avais 14 ans. Qu'est-ce que je peux dire sur la guerre qui aurait changé ma vie? La guerre m'a fait vivre. C'est ma vie. C'était ma vie. Je n'avais pas de maison. Je vivais complètement dans la section militaire où j'avais mes bureaux. J'étais responsable 24 heures sur 24. Je n'étais qu'un rouage de la machine de guerre. La première grande bataille que j'ai dirigée, c'était à Al-Riyam, dans le sud du Liban. La ville était tombée dans les mains de l'armée du Liban Sud, alliée d'Israël. J'avais à peine 18 ans et j'ai dirigé 500 soldats pour attaquer et reprendre le contrôle d'Al-Riyam. Je l'ai fait à 18 ans. Cette bataille n'était pas facile, mais une fois qu'elle était finie, après tout le stress que j'ai eu, j'étais fier. Je l'avais fait. J'avais réussi ma mission militaire. C'est ce qui m'a encouragé à continuer. Donc, quand on me parle de mes souvenirs, comme c'était ma première bataille, elle restera toujours gravée dans ma mémoire. Et c'était mes 18 ans. Maintenant, je me demande, mais comment un enfant comme moi, de 18 ans, pouvait être responsable d'une grande bataille de 500 hommes? Je ne comprends toujours pas. Aujourd'hui, quand je regarde mon fils de 27 ans, je n'ai pas confiance quand il voyage seul. Je suis inquiet pour lui tant qu'il n'est pas arrivé à destination. J'avais 18 ans et je me suis retrouvé dans le rôle de Dieu. Je pouvais décider de faire mourir ou d'épargner la vie de quelqu'un. J'avais le rôle de Dieu. C'est vraiment dur.
Nos guerres du Liban. C'était le premier épisode d'un documentaire proposé par Théa Olivier et réalisé par Cécile Pompéani. N'hésitez pas à réagir, marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur notre page Facebook. Podcastez cette émission, c'est la vôtre. بحبك بذنوبك بزهلك بحبك.